Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En cette période où le temps semble en partie suspendu, où nous vivons au cœur de notre présent comme une attente particulière, je vous propose à nouveau de lever les yeux vers le ciel et de penser à l'échelle du temps très long. Après le Big Bang il y a 3 semaines, nous allons ce matin nous intéresser à la théorie de l'évolution et à ce qu'en dit l'Église catholique. La découverte de Charles Darwin, rendue publique en 1859 dans son fameux ouvrage « De l'origine des espèces » est devenue, au dire même de Jean-Paul II, plus qu'une hypothèse. Alors comment dès lors concilier cette théorie avec la foi chrétienne? Comment l'homme peut-il être tout à la fois désiré pour lui-même, créé à l'image de Dieu et être le fruit d'une sélection naturelle? Explication. Théorie de l'évolution et foi, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, François Couderc, vous êtes diacre et professeur de chimie à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel Maldamé, vous êtes religieux dominicain, prêtre et membre honoraire de l'Académie pontificale des sciences. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de faire un détour à nouveau par les studios de Radio Présence pour ces grands sujets. Il y en aura d'autres, entre autres un jour, allez, on le dit, on se lancera peut-être dans une émission la vie extraterrestre, et la foi. Ce matin, en tout cas, donc, il s'agit de la théorie de l'évolution. Allez, je ne résiste pas quand même pour dire que dans l'Église, ça a été parfois agité. À citer au début de cette émission pour détendre un petit peu tout le monde, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, à propos de la théorie de l'évolution, vous pouvez lire en 1930 cette note de la Commission biblique pontificale qui dit dans l'hypothèse transformiste « La condition de la femme serait bien meilleure que celle de l'homme puisqu'elle aurait été tirée d'Adam tandis que celui-ci descendrait d'un animal. » Voilà. Mais d'autres choses évidemment plus sérieuses. Si on commence par le début, François Couderc, vous nous prenez par la main. Avant qu'on parle de Charles Darwin, il faut parler d'un certain Lamarck. Expliquez-nous sa théorie. Donc il y a des espèces et elles se transforment pour s'adapter, c'est ça?
Et oui, alors on va d'abord regarder un petit peu qui est Lamarck. Donc c'est monsieur de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. Il est botaniste et puis petit à petit il va s'intéresser aux animaux. Et il fera partie de cet enseignement de prestige qu'on appelle le Jardin du Roi.
On est à quelle époque? On est où?
Nous sommes juste avant la Révolution.
18e.
Et puis, lui va bien passer la Révolution, à l'inverse d'autres scientifiques comme Lavoisier. Il fera partie des gens qui vont transformer le Jardin du Roi en muséum d'histoire naturelle. Et il sera donc au Muséum d'Histoire Naturelle chargé des invertébrés. Voilà. Donc il va faire une classification de tous ces invertébrés, en particulier des coquillages, de ce que j'appelle moi, qui ne suis pas un zoologiste, des coquillages. Il va regarder tous ces invertébrés, et puis il va constater que petit à petit, ces invertébrés se ressemblent, mais changent au cours du temps. Donc il va méditer ça pendant plusieurs années, et puis un jour, il va avoir l'idée que, il va prendre par exemple la girafe, qui n'est pas un invertébré.
L'exemple le plus connu, oui.
Voilà, c'est l'exemple que tout le monde prend, mais il a pris aussi le dromadaire. Voilà, prendre la girafe. Alors la girafe, elle a un petit cou, il l'imagine du moins comme ça, et puis les plantes, les arbres devenant de plus en plus hauts, elle va allonger son cou pour aller manger, et donc au cours de sa vie, le cou va s'allonger, et ça va rester cette propriété d'avoir un cou un petit peu plus long va lui rester. Et sa descendance va donc naître avec un cou un petit peu plus long. Et puis, les arbres augmentant de taille et tout ce qu'il faut pour manger étant un petit peu plus haut, mais petit à petit, au cours du temps, va avoir lieu cette transformation. Et donc, on va avoir des girafes au long cou. Voilà, ça va être sa théorie. Monsieur Lamarck n'a pas forcément eu le prestige de tout le monde, de tous les scientifiques du muséum. Napoléon Ier se moquera bien de lui, mais il n'empêche que il permet d'entrouvrir une idée de la transformation des espèces au cours du temps, et surtout que cette transformation va rester dans ce qu'aujourd'hui on appellerait les gènes. D'accord ? Mais à l'époque, évidemment, on est loin d'imaginer toute cette dynamique moléculaire. Voilà. Donc, dans l'hérédité, ces transformations vont rester dans l'hérédité.
Alors, François Couderc, après, donc, on cite donc, évidemment Charles Darwin, donc 1859, de l'origine des espèces. La différence, je le dis avec mes mots, hein, c'est que la transformation serait le fruit d'une sélection. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple des girafes, certaines girafes naîtraient avec un cou plus long, et c'est celle-là qui résisterait, c'est ça ?
Voilà, alors là, c'est toute la différence avec Lamarck. Alors, Darwin a été inspiré, bien sûr, entre autres par Lamarck, mais par d'autres aussi, hein, entre autres par Lamarck, et après des années d'observation...
Et autour du monde ?
Il est allé aux Galapagos, il est allé partout, et puis, bon... Dans l'élevage, on fait aussi de la sélection, hein, donc on fait aussi de la sélection naturelle. Donc il regarde tout ce qu'il y a autour de lui, et il va avoir le sentiment que de multiples modifications ont lieu de génération en génération. Les générations ne se ressemblent pas. Donc il voit que il y a des petites transformations au cours du temps. Et que les transformations qui vont rester, c'est celles qui rencontrent un écho favorable dans l'environnement.
Voilà. Donc il y a des changements, mais qui sont dus au hasard, disent certains,
hasard,
même si c'est un mot qui est piégé, si j'ai bien compris.
Voilà.
Voilà, au hasard de génération, mais il ne reste du coup que ceux qui sont les plus adaptés.
Celles qui sont le plus adaptées. Alors, celles qui vont disparaître, c'est celles qui ne sont pas adaptées. Alors on disparaît parce qu'on n'est pas adapté, ou on disparaît parce qu'on ne sait pas vivre avec, de façon positive avec son environnement. Voilà. Donc il y a une différence importante entre Lamarck et Darwin. Cette différence, c'est que c'est le hasard qui, de génération en génération, va faire des espèces qui vont, on dit aujourd'hui, évoluer.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avant qu'on développe tout un point de vue, on va dire, philosophique et théologique sur cette théorie, Darwin avait raison, tout simplement, on peut le dire comme ça, c'est ce que toute la génétique moderne lui a donné raison.
Alors, bien sûr, la génétique moderne lui a donné pleinement raison. Vous le citiez tout à l'heure dans votre petite anecdote sur ce petit texte de 1930. L'origine des espèces est arrivée en France en 1862, et elle a été présentée avec une très longue introduction, 61 pages, par une demoiselle, Clémence Royer, qui a commis un brûlot anti-religieux. Un brûlot anti-religieux. Et j'ai pas résisté, cher ami, de vous amener quelques phrases de ce brûlot, pour vous dire combien la théorie de Darwin ne pouvait pas être bien accueillie dans les milieux religieux. Ici à Toulouse, ça a été de la part de deux éminents ecclésiastiques s'intéressant aux sciences, en particulier Jean-Baptiste Saint-Dérens, mais aussi le père Duyer de Saint-Projet, ça a été une guerre contre cette théorie, pas forcément tant sur la théorie elle-même, mais sur la présentation française qu'a fait Clémence Royer. Alors je vais lire cette petite phrase. Alors c'est la fin du texte de l'introduction de Clémence Royer. La doctrine de M. Darwin, c'est la révélation rationnelle du progrès, se posant dans son antagonisme logique avec la révélation irrationnelle de la chute. Ce sont deux principes. Deux religions en lutte, une thèse et une antithèse dont je défie totalement de trouver la synthèse. C'est un oui et un non bien catégorique entre lesquels il faut choisir, et quiconque se déclare pour l'un et contre l'autre, pour moi, mon choix est fait, je crois au progrès.
On dirait presque un éditorial de journal, bref. si on reste juste sur la théorie, qu'est-ce que les découvertes ultérieures sont venues peut-être ajouter comme grande différence ou grand complément à la théorie de l'évolution de Darwin? Par exemple, j'ai souvenir de cette notion de saut dans les espèces, Jean-Michel Maldamé.
Oui, alors là, nous entrons dans les problèmes philosophiques. Tout ce débat scientifique repose sur des bases philosophiques implicites. C'est alors, dans la tradition philosophique, j'allais dire depuis les origines, chez les Grecs, on a cette idée qu'il y a une grande échelle des êtres, depuis la matière qui est informe jusqu'à ce qu'il prend forme, et ensuite on progresse vers des vivants très, très frustes, et ensuite des vivants supérieurs, des animaux, l'être humain, et ensuite les êtres purement spirituels comme les anges, cette grande lignée de perfection, avec cette idée, alors on trouve ça chez les Grecs, et ça a été repris par la tradition chrétienne, qu'il y a des êtres qui participent d'un niveau et de l'autre, qui participent à la fois de la matière et de l'esprit, du corps et de l'âme, etc. Alors, au début, Lamarck a classé les choses selon cette image. Et c'est parce qu'on ne pouvait pas. Parce qu'il y avait des choses trop différentes et qu'il fallait faire non pas une ligne unique, mais qu'il fallait faire une arborescence. Et donc, je crois que l'image de l'évolution, c'est de construire les choses selon un arbre. Voilà. Ce qui amène évidemment à dire, mais comment se font les bifurcations? Les bifurcations se font quand il faut répondre à un défi, un changement climatique, un accident, une épidémie, que sais-je. Eh bien, les plus aptes survivent et les autres ne peuvent pas se reproduire. C'est pas la reproduction. Alors évidemment, comme il s'agit de la reproduction, tout ce qui est génétique ensuite va pouvoir ouvrir la porte qui a été ouverte par Darwin. Donc nous avons une philosophie qui est une philosophie du progrès, qui est dans l'échelle des êtres, une philosophie de l'enchaînement des êtres, ça c'est très ancien, et qui prend une forme extrêmement précise grâce aux travaux de Darwin, qui va montrer comment c'est une sélection, ce que l'on connaît parce qu'on le pratique humainement, rationnellement, qui fait que le plus apte survit. Et en même temps, il y a derrière une philosophie. C'est la philosophie du 19e siècle anglais qu'on pourra qualifier de libérale, à la fois dans l'économie, à la fois dans la population. Et c'est cet ensemble philosophique qui fait que la théorie Darwin n'est pas simplement reçue comme une explication scientifique, mais comme une vision du monde.
Alors, on reste sur la partie scientifique dans cette première partie. Je l'ai dit en introduction, hein, Jean-Paul II a dit donc en 1996 donc, que cette théorie était plus qu'une hypothèse. Si j'ai même l'intégralité, enfin une partie de la citation, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse, on y reviendra. Dites-nous en deux mots, le créationniste, c'est ceux qui continuent de croire que le récit biblique est premier, c'est ça Jean-Michel Maldamé?
Alors là, nous faisons de la théologie. Darwin, c'est intéressant de voir, de suivre ce débat théologique chez Darwin. Pendant longtemps, on a pensé que le texte biblique était extrêmement court dans le temps, qu'il y avait des gens qui vivaient très long. On trouve ça chez des gens intelligents comme Pascal. Jusqu'au XVIIe siècle, sans aucun problème, on pouvait penser que des témoins avaient rapporté et que M. Adam, qui a vécu 930 ans, Adam, hein, il a raconté à ses enfants, ses petits-enfants et à petits-enfants ce qu'il avait vécu, et que 930 ans après son apparition, des humains ont pu rapporter, et donc en l'espace d'une dizaine de générations, ce qui est une mémoire raisonnable en humanité, 10 générations, on pouvait avoir une connaissance du passé. Alors à partir du moment où on élargit les choses, cette transmission par tradition évidemment tombe, et on s'aperçoit que les éléments ne correspondent pas à la réalité. Alors, la rupture, alors j'ai dit ça parce que c'est amusant, la rupture se fait avec Christophe Colomb. Pourquoi? Parce que quand Christophe Colomb il pense faire le tour de ce grand continent qui était la Terre et arriver aux Indes, se confronte à une idée, c'est que dans le récit de la Genèse, il y a les quatre fleuves qui ont la même source, il y a le Tigre et l'Euphrate, on connaît, et les deux autres, le Pishon et l'Aiguillon, on ne sait pas ce que c'est. Alors on pense qu'ils sont partis de l'autre côté, hein, donc vers l'Orient. Et Christophe Colomb se dit, en faisant le tour, je vais trouver ce fleuve. Et c'est ce qu'il fait. Quand il remonte l'Orénoque, il écrit, hein, « J'ai trouvé les fleuves du paradis que je remonte. » Voilà. Alors, on est bien obligé de constater qu'il y a le Pacifique. Et donc, le texte biblique n'a aucune valeur en géographie. Alors, ça commence, on est au XVIIe siècle.
Alors, ne nous donnez peut-être pas tout le détail. En fait, oui, non, les créationnistes.
C'est pour dire, donc, les créationnistes sont des gens qui s'obstinent à dire que le texte biblique est un texte qui a été écrit par des témoins, qui l'ont rapporté, qui n'ont pas menti, et donc il a une valeur documentaire irréfutable. Donc le créationnisme, c'est ne pas savoir lire un texte en disant ce texte a été écrit il y a 3000 ans, mettons, 3000 ans à peu près, par des gens qui voyaient le monde d'une certaine manière, et donc il y avait dans le reflet de ce qu'ils disaient la culture du temps. Mais le but du texte n'est pas de nous donner une leçon de géographie, le but du texte ou de science, il est de nous donner une expérience spirituelle, l'expérience spirituelle de l'existence humaine qui se demande d'où il vient et où il va.
Allez, on va s'arrêter là, et puis on va vous retrouver dans quelques minutes pour continuer à parler de la théorie de l'évolution et de la foi et de voir les incidences philosophiques et théologiques que peuvent avoir cette théorie qui est maintenant, on va dire, est largement acceptée.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Théorie de l'évolution et foi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner, François Couderc, diacre, professeur de chimie à l'université Toulouse 3, Paul Sabadier et Jean-Michel Maldamé, religieux dominicain, prêtre et membre honoraire de l'Académie pontificale des sciences. Avant qu'on avance, peut-être il faut-il préciser une chose, c'est que c'est peut-être les mots de Jean-Paul II. Quand il disait que c'était plus qu'une hypothèse, Jean-Michel Maldamé, aujourd'hui, c'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin est considérée par l'Église étant plus qu'acceptable et comme étant une théorie tout à fait valable.
Oui, vaste question. Dans l'expression de Jean-Paul II, on parle de plus qu'une hypothèse. Pourquoi ? Le mot « plus qu'une hypothèse », c'est parce que la théorie de l'évolution, comme on le disait tout à l'heure, a choqué le monde chrétien par sa présentation, même s'il y a eu d'éminents théologiens qui ont considéré que c'était bien. Le chanoine d'Orlodo, par exemple, le père Dalmas le Roi et quelques autres encore. Mais dans l'ensemble de la perspective anti-moderniste qui dominait au XXe siècle, il y a eu un rejet que vous avez évoqué dans la phrase humoristique. Enfin, elle n'était pas humoristique.
Je peux en citer une autre. C'est pourquoi nous déclarons tout à fait contraire à l'Écriture sainte et à la foi l'opinion de ceux qui n'ont pas honte d'affirmer que l'homme est le fruit de la transformation spontanée d'une nature imparfaite en d'autres de plus en plus parfaites jusqu'à la nature humaine actuelle, 1870.
Oui,
bon. 1860, pardon.
Bon, le problème, c'est le problème de la transformation spontanée. Alors, on verra ça tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on a eu ce refus massif de la théorie de l'évolution, d'où les ennuis de Teilhard de Chardin. Le pape Pie XII, qui n'était pas si fermé qu'on le dit habituellement, les scientifiques pouvaient très bien aborder la question de la théorie de l'évolution, car c'était une hypothèse qui permettait d'avancer dans les connaissances. Et ensuite, il ajoutait, mais pour la question de l'homme, il faut mettre la question de l'homme à part. Donc le mot « hypothèse » était déjà employé par Pie XII, et on voit bien que d'ailleurs le mot « hypothèse », il y a cette idée qu'il faut prendre ce qui est dit avec une certaine réserve, en disant « c'est une hypothèse, mais on ne va pas dire que c'est vrai, on va dire que c'est utile dans le démarche ». Donc en disant « la théorie de l'évolution » et plus qu'une hypothèse, c'est une manière de dire qu'on lui donne un degré de vérité, que c'est vrai. Voilà. Donc le plus qu'une hypothèse dit c'est vrai. Alors c'est vrai évidemment comme théorie scientifique. Et donc il ne faut pas tirer d'une théorie scientifique une philosophie implicite qui peut être différente. Donc nous avons le véritable problème est le suivant. Donc le pape Jean-Paul II reconnaît que la théorie d'évolution est une théorie scientifique qui, comme telle, a sa vérité, sa pertinence et sa valeur d'explication des phénomènes de la nature, étant réservé ensuite la place singulière de l'homme parmi le monde des animaux. Ce qui correspond, je dirais, à toute philosophie un peu humaniste. On ne traite pas les hommes comme les chiens, ni comme les escargots. Donc c'est cette expression. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a toujours une minorité intégriste qui le refuse, des fondamentalistes nord-américains protestants le refusent, mais l'ensemble du monde chrétien ne peut pas considérer que la théorie de l'évolution est quelque chose que l'on doit tenir à distance. Il faut la prendre pour ce qu'elle est, une explication du devenir des espèces.
Alors, vous dites que ça a plusieurs incidences, entre autres quant à considérer l'action de Dieu. Vous dites que longtemps, on imagine que derrière la création de tout être, en fait, il y a une chéquenaude initiale. Bref, qu'on veut lier en fait l'apparition de chaque espèce à un acte créateur presque direct. Vous insistez sur le fait que ça renverse un peu notre vision de l'action de Dieu et que la création est d'abord à considérer comme étant au présent.
Oui. Alors, c'est l'essentiel de la théologie de la création et le point difficile. Et vous avez employé le mot « chiquenaude ». Le mot « chiquenaude », c'est un mot qui est employé par Pascal quand il fait une critique de Descartes, parce que c'est de Descartes, mais pas que de Descartes, de la science nouvelle, qui considère que qu'on a un système mécanique selon des lois, et donc ce qui compte, c'est le commencement. Ben, une fois qu'on a mis les choses en place, elles se déroulent grâce au principe d'inertie indéfiniment, à moins qu'il y ait une intervention qui vienne modifier le cours des choses. Donc c'est cette idée fausse que la création serait le point zéro. Alors on l'avait vu à propos du Big Bang, la création c'est pas le point zéro. Le point zéro, cherchons-le, mais la création, ce n'est pas le point zéro. La création, c'est le don de l'être, mais il est le don de l'être à ce qui est. Donc le don de l'être à ce qui est aujourd'hui se fait aujourd'hui. Et c'est pourquoi s'enfermer dans la problématique du point zéro ou du point dans lequel on a eu une espèce d'animal bipède parlant et raisonnant qui s'appelait Homo sapiens, que c'est cela et seulement l'action de la création, ne respecte pas le sens du mot création, qui est que maintenant, à l'instant, dans le présent, il y a un don de l'être à tout ce qui existe. C'est ça la création.
Alors vous prenez un exemple d'ailleurs dans un morceau de musique, tout est de l'instrument et tout est du musicien.
Ça répond à une autre question. Décidément. Mais c'est l'image que j'emploie souvent dans mes cours, dans mon enseignement, c'est que la difficulté que va poser Darwin, c'est la question que pose Darwin, parce que Darwin a eu une formation théologique dont il a vu les limites et donc il a fait d'autres propositions, on en pourra en reparler tout à l'heure, c'est qu'on dit que la création se fait maintenant, donc Dieu agit maintenant. Mais en même temps, les forces qui agissent, elles sont présentes. Donc comment accorder la coexistence entre deux types de forces? Alors je prends l'exemple du morceau de musique, on peut en prendre d'autres. Le morceau de musique, vous écoutez, un petit morceau de musique, c'est à supposer que vous aimez le violon, c'est du violon. Donc tout ce que vous entendez est produit par les cordes du violon qui vibrent et par l'instrument. Donc tout, à 100%. Mais en même temps, le violon tout seul ne fait rien, c'est parce qu'il y a un musicien qui joue du violon et vous entendez la musique qui est interprétée par le musicien. Et évidemment, sans violon, le musicien ne fait rien. Donc il faut dire qu'à 100%, tout est du musicien et à 100%, tout est du violon. Alors 100% plus 100%, ça ne veut rien dire quand c'est des choses de même nature. Il faut faire 50-50 ou une chose comme ça. Donc il faut dire que dans l'acte créateur, qui est d'un autre ordre, je dirais ontologique, que la transformation qui se passe dans la nature, la musique, c'est autre chose que des vibrations sonores. C'est des vibrations sonores qui font que c'est de la musique et pas du bruit. Eh bien, c'est l'un et l'autre, donc tout est de Dieu et tout est de la nature. Et c'est là-dessus que, effectivement, la plupart des gens butent, parce qu'ils se disent, mais vous dites que tout est de Dieu, donc rien n'est de la nature, ou vous dites que tout est de nature, donc rien n'est de Dieu. Non, c'est tout et l'un, parce que c'est deux choses, deux niveaux différents. Alors, la plupart des gens, malheureusement, mettent les choses au même niveau, alors on fait moitié-moitié. Où on dit, alors 100%, non, 99% de la nature et un petit pourcent de Dieu, le petit commencement. Où on dit l'inverse, Dieu est provident, alors 95% est fait par Dieu et puis 5% fait par le diable, pour ce qui est du mal.
Alors Jean-Michel Madame, et quid de l'homme au milieu de ça? Y a-t-il eu une action spéciale de l'homme la création de l'homme, l'avènement de l'homme dans l'histoire. J'ai cru comprendre que là-dessus, Jean-Paul II, alors je n'ai pas retrouvé la citation, donc je ne m'aventurerai pas, laissait entendre quelque chose. Comment concilier ce que je disais un petit peu dans mon introduction, pour le vulgum Pékin que nous sommes, à la fois que Dieu désire l'homme pour lui-même, qu'il le crée à son image, et en même temps, du coup, qu'il serait en fait le fruit d'une sélection naturelle.
Eh ben, c'est l'un et l'autre. Donc il ne faut pas opposer ce qui ne s'oppose pas. Donc dans mon image, de l'instrument de musique, tout est du musicien et tout est du violon dont il se sert, ou la flûte, ou le piano, ou la grosse caisse, peu importe. Tout est du musicien et tout est de son instrument. Eh bien, de même, dans l'acte créateur, tout est de Dieu et tout est de la nature. Mais l'action de Dieu n'est pas une action aveugle. C'est pas un abandon. C'est pas un abandon. Donc, en quelque sorte, ce qui advient est présent à Dieu. Et ce qui advient est différencié. L'acte créateur, aujourd'hui, fait exister les galaxies, fait exister la planète Terre, fait exister les montagnes, mais elle fait exister aussi des êtres humains. Elle fait exister des gens que nous aimons et des gens que nous n'aimons pas. Et donc, il y a une différence ontologique entre les êtres. Donc, alors, ce qu'on veut dire, c'est que la réserve de Jean-Paul II est la mise en garde, parce que c'est une mise en garde, en disant, dire qu'il y a une théorie de l'évolution et que ce bipède résonnant Homo sapiens, espèce dont nous faisons partie, a été le fruit de l'évolution et pris aussi dans une évolution, parce qu'il n'y a pas simplement le passé, il y a aussi le présent. On est dans une évolution, est en train d'évoluer lentement, mais parce que c'est très lent, mais il y a une évolution. Vers quoi ? C'est une autre question. Donc, auquel cas, Dieu est présent, mais il est présent dans une relation qui respecte ce qui est. Donc le regard de Dieu sur un être humain n'est pas le même regard de Dieu sur une montagne ou sur un escargot.
Vous dites que c'est juste une question de regard, parce qu'il y a quand même, il y a quand même un seuil.
Oui,
mais entre un grand singe et un homme, il y a quand même une différence fondamentale.
Alors, entre un grand singe et un homme, il y a une différence.
Il y a une âme.
Il y a une différence fondamentale. Les singes ont une âme de singe et les hommes ont une âme d'homme. Donc il y a une différence fondamentale. C'est une différence minime qui n'est pas d'homme de la même nature que tout à l'heure quand je parlais d'un escargot.
Et donc il y a bien un moment où c'est advenu, non, c'est...
Non, alors, attendez, alors, on est devant, devant une autre question. Donc dire qu'il y a une action spéciale de Dieu, ça veut dire que l'action de...
François Couder, vous m'aidez, hein, maintenant on est deux journalistes, hein, on ne sera pas trop de deux.
Non, c'est-à-dire que ça veut dire que l'action de Dieu, elle est respectueuse de ce que sont les choses. Donc le regard de Dieu sur l'être humain est un regard qui reconnaît son humanité quand il regarde... les chimpanzés qui
ça sont on a compris
il a un regard sur un chimpanzé, donc c'est pas la même chose. Donc c'est, et évidemment si on nivelle tout, évidemment on méprise l'homme. Alors c'est par rapport à ce mépris de l'homme, cette instrumentalisation de l'homme considéré comme du bétail que l'on peut exploiter, qui est derrière les remarques du pape au niveau d'une doctrine et d'une anthropologie. Alors, pour répondre à votre question, donc quand il s'agit de choses qui sont loin, on dit bon, c'est loin, bah, pas de problème, il n'y a pas de ressemblance. Quand il s'agit de nos le plus proche, je dirais...
cousin, c'est comme cousins, ça qu'on, comme ça qu'on
dire,
dit aujourd'hui.
On peut dire corriger nos propres cousins. On se dit, mais effectivement, s'il y a évolution, c'est qu'il y a une souche commune. Eh bien, il y a une souche commune. Voilà, nous avons un ancêtre commun qui remonte à un certain temps en arrière, hein, entre
ça, on a compris,
les
mais
singes
elle
et nous.
Alors, donc, la différence,
forcément,
comment la dire ?
Il y a eu forcément un moment où il y a eu séparation. Alors, qui est séparation, qui est différenciation, c'est dans l'ordre naturel. Donc, ça se passe partout. Donc, ça n'a rien d'insolite qui ait eu une séparation. La séparation... Alors, c'est tout le problème de la recherche humaine. Quand est-ce que cette séparation a eu lieu ? Eh bien, pour l'instant, personne ne peut répondre totalement. Et pourquoi ? Parce que, d'une part, les choses les plus importantes de l'humanité, la parole, la pensée, ça ne se fossilise pas comme tel. On peut en voir des traces. Et à ce moment-là, il faut se mettre d'accord sur l'interprétation des traces. Donc, l'outil a été considéré longtemps comme ce qui est spécifiquement... On trouve ça dans la philosophie de Bergson, on trouve ça chez d'autres philosophes et d'autres penseurs et d'autres scientifiques, l'outil. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les outils, on trouve beaucoup plus que ce qu'on avait trouvé à l'époque, et donc il faut nuancer ce rôle de l'outil par rapport à d'autres usages, donc des usages, je dirais, sociologiques, d'organisation. Donc, c'est-à-dire que le problème scientifique, c'est... Pour voir ce qui est dans le passé, quels critères je me donne pour décider qu'il y a une différence, et ce critère de la différence, c'est forcément une opposition philosophique.
Mais là, vous parlez comme scientifique, mais s'il y a un regard théologique, j'avais souvenir que Jean-Paul le disait à un moment, est-ce qu'on peut imaginer que Dieu ait insufflé quelque part une âme d'homme dans un grand singe ?
Non, parce qu'il y a
bien une différence fondamentale.
L'image d'insuffler une âme d'homme à un grand singe me paraît stupide. non, parce que...
Heureusement que j'ai pas retrouvé
la
citation.
Parce que si c'est un singe, c'est un singe. Et il reste singe. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il peut y avoir... et ça, c'est tout le problème, on le verra, du saut et de la continuité. Il peut y avoir une population dans laquelle des individus par, je dirais, par intelligence, développant leur intelligence naturelle, vont poser des actes nouveaux qui sont d'une certaine manière en continuité avec ce qu'ils sont et en même temps nouveaux. Alors on le voit avec la croissance de l'intelligence chez les enfants. Les enfants sont intelligents. Et puis quand on les voit grandir, il y a un moment donné où devant certaines choses, ils étaient complètement, je dirais, ignorants, etc. Et puis brusquement, il y a quelque chose, ils comprennent. Et ils passent un seuil, je crois que c'est ça qui s'est passé pour ce passage. Mais il y a eu, je dirais, une population, on raisonne, je pense scientifiquement, il faut raisonner en termes de population. Une population dans laquelle un certain niveau d'intelligence, parce que les animaux sont intelligents, un niveau d'intelligence qui a franchi un seuil et qui a permis à ce moment-là de fonder en quelque sorte une séparation avec une population voisine mais différente sur ce point de l'intelligence. Alors de cela, nous n'avons pas le moyen d'être le témoin. Mmh. Mais nous pouvons le conclure, auquel cas, faut-il dire, que l'action créatrice spéciale de l'homme a été... je dirais, immanente à cet acte d'intelligence qui a fait une divergence dans une population pré-humaine.
Allez, on fait une deuxième pause et on vous retrouve pour continuer à voir les conséquences de cette théorie de l'évolution.
Ça va ? Pas trop.
Radio Présence à Moissac 93.3. Emmanuel Pella.
Théorie de l'évolution et foi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. François Couderc, diacre et professeur de chimie à l'université Toulouse 3, Paul Sabatier et Jean-Michel Maldamé, religieux dominicain, prêtre et membre honoraire de l'Académie pontificale des sciences. Alors, dans ce que vous avez eu la gentillesse de me faire suivre, Jean-Michel Maldamé, pour essayer de faire quelques pas dans ce grand maquis scientifique, théologique et philosophique, vous laissez entendre que cette théorie de l'évolution peut avoir aussi des incidences quant à la manière qu'on a de regarder le Christ, si j'ai bien compris. Donc, je crois qu'on appelle ça du coup la christologie. Vous laissez entendre vous parlez donc de Teilhard de Chardin, vous laissez entendre qu'en fait on doit considérer, cela aide à considérer en fait le salut apporté par Jésus de manière plus cosmique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, alors on aborde Teilhard de Chardin, c'est un monde. Teilhard de Chardin est un jésuite très éminent, un grand spirituel. Et il a découvert l'importance de la théorie d'évolution concernant l'humanité. Sa formation scientifique est celle d'un géologue. Et il faut bien voir dans son œuvre scientifique combien la géologie joue un rôle important. Quand il était en Chine, il a fait la géologie, la structure géologique de tout le continent de la Chine en allant vers les Indes. C'est un travail scientifique très remarquable. Or, dans ce travail géologique, on a trouvé, et on a trouvé en Chine, des êtres humains. Il y a un certain temps en arrière, je ne vais pas rentrer dans les choses, ce qui fait que la question de la place de l'homme dans cette genèse de la forme de la Terre, de l'apparition de la vie, ne pouvait pas être séparée. Donc ce que dit Teilhard de Chardin, c'est qu'on ne peut pas séparer la destinée humaine de la destinée d'ensemble de la planète Terre et de l'émergence de la vie. Ce que fait Teilhard de Chardin, alors ça c'est sa propre philosophie, c'est qu'il va renoncer à une classification qui sépare les choses. Il y a le géologue, il s'occupe des cailloux, il y a le biologiste, il s'occupe des molécules, des cellules, il y a le zoologiste, il s'occupe des animaux, et puis il y a l'anthropologue, il s'occupe de ce bipède étrange qui parle et qui pense. Il dit non, il faut mettre tout ça dans le même continuum, et la théorie de l'évolution présente un certain continuum. Alors, Teilhard de Chardin n'est pas darwinien. Il est plutôt lamarckien. Donc il y a une différence d'interprétation parce qu'il trouve que Darwin et les darwiniens sont trop réductionnistes parce qu'ils ne voient pas l'ensemble. Voilà. Donc c'est cette idée de dire, cette vision d'ensemble, comment se fait-il que nous assistons dans toute cette évolution, formation de la Terre, formation des montagnes, formation des vivants, etc., sur des millions d'années, est-ce qu'on peut dire que ça a du sens? Voilà. Donc il va dire, si je veux le comprendre et l'unifier, il me faut introduire une notion philosophique qui a été tenue à l'écart par la philosophie dominante. Cette notion philosophique, c'est la notion de finalité. Voilà. Donc c'est ça, la philosophie de Teilhard consiste à dire la philosophie positiviste, la philosophie rationaliste, la philosophie qui se réduit à l'expérimental, a oublié quelque chose qui est la finalité. Donc ce grand mouvement...
Tout est pris dans une finalité.
Tout est orienté dans une finalité. Donc on peut dire que lorsque l'on passe, comme il l'appelle, de la matière à la prévie, de la prévie à la vie, toujours sous la continuité, c'est qu'il y a une tension vers un en avant qui ne s'est pas encore dévoilée. Et c'est là que pour lui, l'évolution est en quelque sorte finalisée par l'apparition de l'esprit, par l'apparition de l'espèce humaine qui va apporter dans le monde des vivants une toute autre dimension qui est l'amour. L'amour qui n'est pas simplement une fonction qui accompagne la survie et la reproduction, mais l'amour qui est la reconnaissance d'autrui pour lui-même et pour se donner une autre dimension à son existence, qui est une dimension qui est déjà la transcendance qui apparaît dans l'amour humain. Donc, alors, la vision de Teilhard de Chardin est une vision unifiée de tout le processus cosmo. Alors, il connaît pas les théories de la cosmologie, il les espère. Mais ce que nous avons dit sur le Big Bang, sur l'évolution cosmique, le reçoit bien. Donc c'est cette idée que c'est finalisé. Et si c'est finalisé, ça explique pourquoi il y a... Alors ce qu'il explique, par en disant ce qu'on a appelé, en le lisant, ce sont ses commentateurs, la loi de complexité-conscience, c'est-à-dire que ceci s'explique parce que quand la complexité augmente, les relations augmentent, et donc il y a une conscience possible. Donc quand vous avez des couches géologiques de terre, de pierre, de rocher, la communication est... Mais quand vous avez un être vivant dans une cellule, il y a une interconnexion de tous les éléments dans l'unité qui fait qu'il y a complexité et une conscience, la conscience de soi du vivant. Eh bien, cette conscience de soi, avec l'être humain, elle prend une dimension plus grande, puisqu'elle va être plus dégagée de la matière, c'est ce que nous appelons l'esprit. Voilà. Donc c'est ça la grande vision de Teilhard de Chardin. Donc elle respecte la théorie de l'évolution, elle l'intègre dans une vision cosmique, et elle s'oppose à un certain positivisme qui dit les choses, elles se passent comme ça, mais c'est le fruit du hasard, il n'y a pas de sens, cette espèce qui est apparue parce que c'était une solution, mais finalement, pourquoi cette espèce aurait pu être une autre. Il y a cette espèce de flou. Il dit tout ça a été ordonné en vue de la production de la conscience.
Alors, si on devait finir par quelque chose, dans les, on va dire, 10 toutes petites minutes, allez, dans 5 grosses minutes qui nous restent, vous parlez aussi d'une perspective franciscaine. En tout cas, derrière ça, ce qu'il faut entendre, si j'ai bien compris, c'est que ça peut, la théorie de l'évolution peut changer notre regard sur l'incarnation. Puisque on croit en un Dieu qui s'est fait matière et que du coup ça qu'est-ce que ça vient changer, Jean-Michel Maldamé?
Oui, alors là on entre dans une autre perspective qui consiste, alors vous avez cité la tradition franciscaine, elle se trouve en effet dans l'école franciscaine, avec les grandes figures d'école franciscaine, Saint Bonaventure, elle se retrouve aujourd'hui d'une manière très importante aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une tradition qui consiste à introduire dans le mystère chrétien. Là, on est vraiment dans le mystère chrétien, spécifiquement chrétien, quand on va parler de l'incarnation. Teilhard de Chardin reste au seuil. Il n'entre pas directement dans ces questions. Il le fait dans ses textes spirituels. Mais quand il fait son exposé, il reste toujours au seuil en disant il y a la conscience, il y a l'esprit, il y a l'amour, des choses qui sont, je dirais, universelles. Là, on est dans une reprise théologique spécifiquement confessant de la foi chrétienne en disant l'événement donc de la foi chrétienne qui est l'incarnation, quelque chose qu'il faut intégrer comme élément explicatif de l'évolution. Alors ça, c'est en ce sens qu'on peut parler d'une explication, de tradition franciscaine. Elle est très présente chez un certain nombre d'auteurs nord-américains. Puisqu'on est à Toulouse...
Mais juste, Michel Maldamé, avant de nous expliquer tout ça, en fait, qu'est-ce que ça vient changer? C'était ma question, en fait. Qu'est-ce que la théorie de l'évolution, dans ces cas-là, pourquoi insister sur ce point?
Ça ne change rien à la théorie d'évolution, qui est une théorie scientifique. La théorie de l'évolution est une théorie scientifique. Voilà. Elle est basée sur une philosophie. Comme toute théorie, il y a une philosophie immanente. La philosophie immanente chez Darwin, c'est la philosophie du libéralisme anglo-saxon.
D'accord, mais l'homme et le Christ lui-même sont pris dans ce continuum et dans cette évolution,
alors, ce qui n'est pas rien évolution. Quand même. C'est pas rien. Mais de même, d'autres réalisations, donc de même les grandes civilisations. Donc on peut très bien rester au niveau scientifique en disant il y a une évolution, donc l'humanité présentement, et on ne se prononce pas théologiquement dans une confession de foi. On ne fait pas une confession de foi à ce propos. Et moi, je suis personnellement je pense que si on veut parler de la théorie d'évolution, il ne faut pas tout de suite mettre une confession de foi, parce que là, après, on met des choses qui sont de nature différente et on tombe devant des contextes. C'est pour ça que le modèle de Darwin, que j'aime beaucoup sur ce point, qui a été formé pour être clergyman, quand il a fait 2 ans d'études pour ça, et qui était très concordiste en ce sens, dans sa jeunesse, il a cessé de l'être. Et il a dit, sur ce point, je suis agnostique, même s'il a gardé une foi
concordiste, c'est donc le fait de vouloir,
se rejoindre des choses qui sont différentes, même s'il avait dans sa vie personnelle et familiale une dimension...
Mais alors, ces précautions étant prises, pourquoi vous insistez sur cette perspective franciscaine dans ces cas-là?
Mais parce qu'elle existe. Donc j'en parle. Dans les textes que je vous ai donnés, j'ai essayé de donner un exposé de.
Mais qu'est-ce qu'elle dit de particulier et pour
qu'est-ce qu'elle dit de particulier, c'est qu'elle introduit dans ce grand mouvement retracé grâce à la théorie de l'évolution, elle introduit une mention spécifiquement au Christ. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas objet de la science naturelle. Des sciences humaines, oui, mais des sciences naturelles, je ne pense pas. Sur ce point, il y a une différence, différentes écoles théologiques, je ne me mets pas dans cette tradition-là. Donc, je pense qu'il faut, dans un dossier que je vous ai envoyé, il faut en parler, mais on n'est pas obligé de mettre toutes les pièces du dossier au même niveau.
Si on devait finir par une chose, est-ce que l'Église continue à réfléchir sur ce sujet? Parce qu'on peut avoir l'impression que vos réponses sont des réponses fort savantes et claires. Je lisais, par exemple, Benoît XVI réfléchit au débat sur l'évolution des espèces. Alors, on dirait que c'est un article qui date un petit peu dans son club de réflexion là, qu'il animait assez régulièrement. C'était à Castel Gandolfo lors d'un été. Il recevait sur le thème créationnisme et évolution. Oui. Depuis 2 siècles, l'Église réfléchit sur l'évolution des espèces. C'est un autre article du journal La Croix. On se cherche un petit peu encore sur ce sujet, Jean-Michel Maldamé, ou pas?
C'est une question qui se pose. Donc, il y a un certain nombre de gens qui la posent explicitement. Vous citez Benoît XVI. Benoît XVI, quand il était professeur à Ratzinger, avait travaillé un groupe de scientifiques et il a continué à les fréquenter, même quand il est devenu... évêque de Rome, le souverain pontife. La question se pose parce que plus on découvre des choses, plus on a d'informations, ces informations obligent à repenser des choses qui étaient dites et qui apparaissent comme un peu trop élémentaires. Donc il y a un travail sans arrêt à repenser ces éléments par rapport à les découvertes qui ne cessent de se multiplier, en particulier sur les origines de l'humanité.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de la théorie de l'évolution et de la foi. Un grand merci à vous. À la technique, Francky Guéret, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.